Une production des studios Bass.
Bonjour tout le monde, bienvenue à ce hors-série et nous allons aujourd'hui discuter un peu, échanger sur nos réactions suite à l'événement de Tesla qui annonce, dans le fond, livre ses premiers Cybertruck de production et en profite là, pour nous donner plein de spécifications sur les véhicules. Et avec qui d'autre on peut faire ça, autre que notre chroniqueur Tesla, Laurent Gigon. Bonjour Laurent.
Hey, bonjour Martin, merci de ta suggestion. De faire un petit peu ce compte-rendu là à chaud de nos réactions de ces 18 minutes, en fait. Hein,
18 ah oui, c'était condensé.
De présentation.
Oui, ouais, oui. Ouais. Et puis pour ceux qui n'ont pas suivi l'événement, dans le fond, il y a eu un retard là, dans de la diffusion qui était plus long que l'événement lui-même. Donc,
ah, mais tu sais que mais c'est pas vraiment un retard, c'est ce qu'on appelle du alone time. Hein.
Ah ben oui, c'est ça.
Il n'y a jamais eu une présentation qui a démarré à l'heure. Jamais.
c'est le fameux Ellen Time qui est repris
exact.
À toutes les sauces. Ben, ça valait la peine. Ça valait la peine. Il y a quelques perles là-dedans, même si on n'a peut-être pas appris plein de choses parce qu'il s'en était déjà dit beaucoup au préalable. Il y avait quand même des éléments intéressants. Puis c'est ça que j'aimerais qu'on discute ensemble, Laurent. Donc, commençons par nous décrire là, le format de l'événement en question.
Alors, le format, écoute, moi, j'adore. Je sais que, bon, on aime ou on n'aime pas, mais premièrement, j'adore la musique. Je sais que c'est un détail, mais au niveau musical, les choix sont hallucinants et je suis toujours avec mon Shazam prêt à bondir dessus pour écouter ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on joue? C'est excellent. Donc, c'était Flint. Alors, voilà. Et puis donc, sinon, au niveau de l'image, on a attendu pendant 27 minutes, je pense, à ça, ouais. Avant d'avoir la présentation. Puis, on a quand même eu les 10 dernières minutes, je pense, un beau ralenti à travers toute l'armature de l'exosquelette façon Blade Runner au ralenti, à l'hyper ralenti. Je trouve ça super beau. Au niveau créatif, c'était très bien. Mais là, tu sais, Martin, parce que tu étais là en live avec moi quand la présentation ouvre et que Elon décide d'embarquer, en fait, dans la boîte en arrière, on se rend compte que c'était pas prévu. Et là, il y a plus de lumière sur sa face. Fait que ça devient complètement burlesque.
Ouais, ouais, ouais. Écoute, autant rien n'est laissé au peigne fin dans la. Tout est passé au peigne fin, plutôt rien n'est laissé au hasard dans la construction des voitures. Les lives. Je pense qu'Elon prend des initiatives. Là, l'équipe de production du live en question ne s'attendait pas à ça. Donc, ce qui fait que tout le début de la présentation, là, il parle, puis il y a le bas du corps dans l'éclairage, mais le haut du visage complètement dans l'ombre.
Il disparaît
complètement. Ouais.
Et personne n'ose broncher parce que, bon, on connaît son caractère. On a l'impression que tout le monde se met derrière, puis dis-lui, toi. Non, vas-y, toi.
Mais quand même.
Mais écoute, tu sais, il faut quand même contextualiser, hein, Martin, excuse-moi, mais hier, quand même, Elon Musk a fait une sortie où il a envoyé promener copieusement tous les annonceurs qui s'étaient retirés de Twitter. Donc, on sent quand même une certaine tension hein, à l'intérieur, dans les interactions entre lui et pas mal de personnes. Et Elon Musk, on connaissait jusqu'à 2021, mais c'est plus le même aujourd'hui. C'est une personne qui est très polarisée et j'ai l'impression qu'au niveau de son équipe, de son entourage, tout le monde se tient à carreau.
Oui, oui, c'est effectivement. C'est probablement en partie pour ça qu'il n'y a pas eu d'ajustement ou de régisseur de plateau qui a fait des petits signes amicaux avec le doigt pour dire tasse-toi un petit peu par là.
Il a peur de perdre sa job.
Écoute, tu as parlé d'entrée de jeu de l'ouverture avec le ralenti vidéo. Je trouve qu'on mise beaucoup sur un visuel très Blade Runner, effectivement. Le désert, le sable rouge, le véhicule fait pour aller tout-terrain, mais le tout-terrain, on aurait pu lui donner le personnaliser avec de la jungle, avec. Non, c'est vraiment très, très Blade Runner.
Futuriste.
On dirait qu'on roule
futuriste.
Sur Mars.
Ouais. Ouais, ces futuristes, ils veulent vraiment montrer dans l'image que ça casse, c'est une disruption par rapport à ce qui existe à l'heure actuelle, je pense. Puis tu sais, Martin, on en a souvent parlé de l'engouement du Cybertruck par rapport à ceux qui possèdent déjà des camions. Et on voit qu'il y a une scission entre les groupes d'âge et les plus, disons, 45, 50 ans, ont tendance à trouver le Cybertruck un petit peu trop futuriste à leur goût, puis un petit peu trop cassant par rapport à ce qu'ils connaissent. Mais par contre, chez les plus jeunes, on s'aperçoit qu'il y a un engouement pour ce type de véhicule. Et là, ça vient chercher le futur des gens qui n'ont peut-être pas l'habitude d'avoir roulé dans des pick-up et qui veulent, et ça va peut-être être leur premier pick-up, et on sent vraiment cette cassure-là que Tesla veut entretenir.
Ouais, puis le début du discours de Elon, là, cette fameuse partie où on ne lui voyait que le bas du corps, il l'a longuement même répété, il s'est répété beaucoup d'ailleurs, peut-être par 4 ou 5 fois là, sur des phrases qui roulaient autour de « on est habitué de voir des choses d'une façon, mais là, c'est une des premières fois que c'est très rare, ça arrive très rarement dans l'histoire, mais il arrive des moments où un objet brise avec ce qu'on est habitué de voir en termes de façon de faire, et puis c'est ce qu'on vit présentement. » Donc, il a beaucoup ramené cette cassure-là que tu parlais, là. Elon l'a beaucoup martelé en voulant dire une façon de traduire « je le sais que notre camion n'est pas comme les camions que vous êtes habitué de voir, mais on marque vraiment, là, il y avait le avant et le après, là, tu sais, puis c'est style jalon, là.
Mais il s'est battu à contre-courant. Quand on lit la dernière biographie d'Elon Musk, on apprend qu'il s'est battu à contre-courant pour imposer en fait ce design, ce concept-là de Cybertruck à toute son équipe de design, à toute son équipe d'ingénieurs. Certains ont menacé de quitter l'équipe quand ils ont vu à quoi ressemblait la maquette du Cybertruck. Certains ont pensé que c'était une blague. D'ailleurs, nous aussi, quand on avait la présentation, fait que j'ai l'impression que Elon Musk a besoin de justifier en fait ce choix et continue de le justifier parce que il reste quand même une grande inconnue. On sait qu'il y a 1 million, à peu près 1 million de réservations, d'après ce qu'il nous a dit aux dernières nouvelles. Mais combien vont vraiment franchir l'honorer ? On ne le sait pas. C'est une grande inconnue et c'est un risque pour Tesla parce que c'est une. Il prévoit une production à terme de 250 000 véhicules par année. Mais 2024 va être critique parce que ça va être une montée en production qui va être extrêmement difficile, un peu comme ce qui s'est passé pour le modèle 3. Et tu le sais, hein, c'est ce qui est la phase la plus difficile, c'est de produire en volume. Donc non seulement Tesla va être confronté à cette difficulté de monter en volume la production, mais également cette inconnue de savoir est-ce que vraiment les gens vont vouloir ce type de véhicule.
Tout à fait, tout à fait. Écoute, Laurent, je te propose qu'on plonge à bras-le-corps dans ce qui s'est passé dans cette présentation-là. Donc, un des premiers éléments, là, puis écoute, tu étais là toi aussi, donc si je me trompe dans ma chronologie, tu me ramèneras à l'ordre, mais il a vraiment fait référence à l'événement précédent où on avait envoyé là un poids dans la vitre. Puis la vitre devait résister, mais elle avait éclaté. Hein. Donc, à la blague, il a repris, bon, ça s'est pas passé comme on avait voulu la dernière fois. Mais là, cette fois-ci, on recommence. Et là, il a pris une personne qui était avec une balle de baseball. Puis cette personne-là a lancé comme à 2 ou 3 reprises la balle de baseball dans la vitre du Cybertruck.
Oui.
Évidemment, sans effet. Ça rebondit comme si de rien n'était. On s'y attendait. Ça aurait pas été drôle que ça brise une autre fois.
Non, en effet, puis bon, ils sont pas allés avec une balle en acier, là.
C'est ouais.
ni avec une masse, comme ils l'avaient fait
la dernière
fois.
Et pour connaître très bien le baseball, c'était pas non plus un lanceur professionnel qui lançait. En tout cas, il lançait, mettons, assez mollement, là.
Oui, non, il avait peur pour sa job, lui aussi, peut-être. Ça fait longtemps qu'il est là, quand même, hein. Franz, ça fait très longtemps qu'il est là. Il fait partie des piliers. On n'aimerait pas ça le voir partir. Il fait vraiment un très, très bon travail. Mais effectivement, ils ont voulu faire ce leitmotiv-là. Mais bon, premièrement, à l'événement, pour rappeler ce qui s'est passé, c'est que la vitre a brisé probablement. Parce qu'ils ont débriefé après. Parce que d'avoir donné des coups de masse dans la portière, ça a un petit peu fragilisé le verre. Et donc, quand il est arrivé avec sa bille, ben, ça a brisé. Mais effectivement, cette fois-ci, je pense qu'ils sont allés plus prudemment. C'était plus une blague qu'autre chose, parce qu'au fond, on sait que c'est un véhicule qui est très résistant, particulièrement la carrosserie, parce qu'il n'y a pas de peinture, c'est de l'acier inoxydable qui est laminé à froid. Donc, c'est extrêmement résistant. Et pour ceux qui veulent faire leurs courses chez Costco, ben c'est parfait. Un chariot viendra pas abîmer votre Cybertruck. Maintenant, on peut discuter de l'utilité d'aller chez Costco.
Tout à fait.
Si avec un véhicule pareil.
Et si vous allez vous promener du côté sud de la frontière et que vous avez peur de vous faire tirer dessus à coups de revolver.
Ben oui, on a vu le fusil d'assaut.
Ouais, il parlait que le véhicule est bulletproof, donc à l'épreuve des balles. Donc
des 9 mm. Donc effectivement, c'est un très bon véhicule qui va peut-être pouvoir servir pour l'armée. Je ne sais pas. Pour des services spéciaux. Bon, maintenant, encore une fois, bon, l'utilité de ça, on le sait pas. Je pense que ça vient chercher. Je pense que Tesla veut aller chercher avec ce véhicule-là aussi des gens qui sont plus, disons, des Texans, des gens qui ont l'habitude de valoriser des véhicules très solides. Mais on s'entend que pour la plupart des gens, et bon, particulièrement au Québec, même si on a beaucoup de camions, je pense que le fait que ce soit à l'épreuve des balles, ça viendra pas chercher des ventes supplémentaires. Ça me surprendrait.
C'est clair. Écoute, on a parlé un peu de certaines caractéristiques. Entre autres, il a fait allusion à la hauteur au dégagement de sol de 17 pouces, 43 cm à peu près, du véhicule, mais un vrai 17 pouces, c'est-à-dire que le véhicule va ajuster la hauteur en fonction de la charge utile dans le véhicule ou encore de certaines caractéristiques là, de conduite. Donc, pour toujours avoir un dégagement, ce qui permet au véhicule d'être vraiment tout terrain et ça dans toutes les conditions.
En effet, ça rejoint aussi ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que il a besoin aussi de rassurer les gens, les acheteurs de ce type de véhicule-là, que il va faire la job, ce véhicule-là, même s'il est bizarre, même si la boîte arrière est bizarre, que il va répondre aux exigences, au moins si ce n'est mieux que sur toutes les caractéristiques que n'importe quel pick-up traditionnel. Alors, je pense qu'ils ont besoin de faire cet exercice-là. On l'a vu également avec les mesures avec les tests de sécurité où c'est quasiment pas renversable, il peut pas faire de tonneau là. C'est
le
centre de gravité est extrêmement bas. Et parce que quand on regarde les véhicules sur notre route, écoute, ça m'arrive souvent de me faire la réflexion. Tu vois des gens qui dépassent à 120 km/h sur l'autoroute 130 avec des gros pick-up très hauts, des grosses roues molles, et tu sais que le centre de gravité est pas si bas que ça. C'est préoccupant, tu sais, au niveau de la sécurité. Ça, le truc-là, est vraiment, je pense qu'il va être extrêmement sécuritaire.
Tout à fait. Écoute, on peut pas passer à côté de certaines caractéristiques lorsqu'on parle de véhicules de cette taille-là. On a parlé des caractéristiques ou des capacités de remorquage du véhicule. Donc, on sait que le véhicule est fait pour être capable de porter là, jusqu'à... C'est 11 000 livres, c'est-tu bien ça, si j'ai bien compris? Là?
Je pense que c'est à peu près 11 000 livres. J'ai plus le chiffre là sous les yeux. Mais oui, c'est énorme. Hein. D'ailleurs, on a vu quelques tests qu'ils ont fait de comparatifs.
Oui, avec un F-150, un F-350... un Rivian aussi, si je me trompe pas.
Qui était Rivian, dans...
ouais,
exact.
Ouais, ouais. Puis,
11 000 livres, ah oui, c'est
ouais,
bien ça.
Et, oui. Ils ont fait un test là où, attaché en arrière, là, il y a une remorque dont l'objectif est de donner de plus en plus de résistance au sol au fur et à mesure où le véhicule tire, là, pour voir lequel va réussir à aller le plus loin. Et écoute, le Cybertruck est allé facilement plus loin que les autres, tellement plus loin en fait qu'il est en train de sortir de la piste. Là, le camion a dû tourner pour pas percuter la clôture qui finissait.
Oui, c'est ce qu'il a dit à la plaque. Effectivement, le Rivian est donc celui qui a performé le moins, ou c'est le F-150? Le F-150 Lightning, ensuite on a le Rivian.
Ouais.
Et puis le F-350 est celui qui a le mieux performé. Donc, c'est le Cybertruck. Et comme tu dis, beaucoup plus là, que les autres.
Pas comparable. Écoute, moi, ce qui me concerne, mon highlight, là, écoute, j'ai éclaté de rire, c'est le test de rapidité, donc le quart de mille, hein, ce que les Américains appellent le quarter mile. Là, donc, c'est une accélération dans laquelle, et là, faut vraiment s'imaginer la scène, là. Elon dit, bah, regarde, on voulait le comparer. C'est un gros camion, mais c'est un gros camion qui a des caractéristiques de véhicule sportif, de course. Donc, on est allé chercher une Porsche 911 flambant neuve chez le manufacturier, une 2023. Et là, on voit les deux véhicules nez à nez, là, la ligne de départ, la 911, puis le Cybertruck. Oui. Et là, ça passe à accélérer. Et là, la caméra est relativement close-up sur les deux véhicules et on voit que la 911 commence à perdre du terrain et que le Cybertruck, donc, prend de l'avance. Et là, tout près, quand on est tout près de la ligne d'arrivée, la caméra recule et on se rend compte que non seulement le Cybertruck a clenché la 911, mais il l'a clenché en remorquant une deuxième 911 dans un trailer, dans une remorque à l'arrière.
C'est tellement drôle. C'est hallucinant, c'est drôle et à la fois c'est très instructif. Ça nous permet de voir qu'il n'y a vraiment aucune possibilité de compétitionner ce type de véhicule-là, clairement.
Et Elon s'est fait un malin plaisir de dire donc le Cybertruck est plus rapide qu'une 911, même en tirant lui-même une autre 911.
Ouais, c'est fou, c'est vraiment malade.
J'ai éclaté de rire, je l'ai jamais vu venir.
C'est ça, c'est la puissance des moteurs électriques. Et je pense que c'est le trimoteur en plus, hein, celui qui a accompli ça. Donc on a deux moteurs à l'arrière et un moteur à l'avant, donc ça donne des performances hallucinantes et de l'adhérence au sol pour l'accélération avec un contrôle électronique qui est d'une précision incroyable. Donc effectivement, c'est assez imbattable.
Ça a été la livraison live des premiers. Ouais. Donc, les clients embarquaient sur scène, embarquaient dans leur véhicule et quittaient avec leur propre véhicule. Ça aussi, c'est une façon intéressante de démontrer que les livraisons sont commencées.
Alors, c'est une façon intéressante de démontrer, oui, effectivement, que les livraisons commencent. D'un autre côté, je suis quand même déçu parce que je m'attendais à ce qu'on ait au moins une idée des prix. Parce que ceux qui ont le million de personnes qui ont leur commande ne savent toujours pas combien vraiment le véhicule va être vendu. Hein, on le sait pas. Quelle déclinaison va être disponible pour l'instant. Quelle autonomie les véhicules ont, parce que les chiffres que Tesla avait donnés datent de 2019. Il n'y a pas eu vraiment de révision de fait. Donc, on se doute, ça serait surprenant que l'entrée de gamme soit à 39 ou 49 000 $. Honnêtement, je le sais pas. Et je suis, pour tout dire, déçu de ne pas avoir eu ces chiffres-là parce que des rumeurs commençaient un petit peu à sortir comme quoi les livraisons allaient commencer le lendemain, donc demain. Sauf que, est-ce que d'ici demain, on va commencer à voir les prix? Ça, je ne le sais pas.
Ça va être à suivre. Et puis, évidemment, silence on roule, on est rapide. Là, l'événement a eu lieu en fin d'après-midi, puis on est tout de suite en train d'enregistrer le podcast. Donc, au moment où vous allez écouter, peut-être que les prix vont être sortis. Mais là, on est quoi? Tout près de l'heure du souper, là, jeudi soir. Et puis, au moment où on se parle, au moment où on se parle, on n'a toujours pas les prix. Donc, à suivre. Mais effectivement, si on veut livrer dans les prochains jours, faudra avoir les prix. Il reste à voir si ça va être disponible également aux États-Unis, peut-être avant le Canada. Donc, peut-être que les prix américains vont être annoncés, puis les caractéristiques comme l'autonomie, puis tout ça va peut-être être annoncé aux États-Unis. On pourra tirer certaines conclusions, mais c'est toujours, pour l'autonomie, en tout cas, sans trop se tromper, mais pour ce qui est des prix, il faut faire attention. C'est pas toujours une relation équivalente au taux de change.
Puis, il y a beaucoup de fébrilité au niveau des investisseurs parce que le titre Tesla a chuté aujourd'hui. Il a comme chuté ensuite après 16 heures après la fermeture des marchés. Pas beaucoup, mais quand même, on sent une fébrilité comme je le disais tout à l'heure parce que il y a beaucoup d'inconnus, de variables dans tout ça. On sait pas les prix, on sait pas combien ils vont en vendre, on sait pas combien ils vont être capables de produire et combien ça va coûter à Tesla. Et la grande inconnue à l'heure actuelle, c'est 2024. Qu'est-ce que la production de ce Cybertruck va avoir comme impact sur les marges bénéficiaires de Tesla? Ça, c'est une autre inconnue. On soupçonne que ça va entailler un petit peu la marge de profit de Tesla. Et ça fait pas plaisir aux investisseurs. Et en général, Wall Street n'aiment pas les inconnus, en fait. Hein. Ils aiment pas l'inconnu, ils aiment savoir où est-ce qu'ils s'en vont. Et là, il y a beaucoup d'inconnus encore.
Ouais. Ben, ça va t'assurer. Puis écoute, j'imagine que d'ici ta prochaine chronique, il y aura des détails qui auront émané soit du site de Tesla ou ailleurs, et puis tu pourras nous en parler. Mon cher Laurent, avant de terminer, un mot de la fin.
Moi, je vous invite à écouter Silence au Rôle. On va vous tenir au courant de tout ce qui se passe avec ce véhicule. Moi, je trouve et je suis très enthousiaste par rapport à ce véhicule-là parce que je pense que c'est un gros marché en Amérique du Nord et que c'est un marché qui a besoin d'être électrifié. Et si on regarde la compétition, il ne se passe pas grand-chose et on n'est pas prêt de voir énormément de volume arriver avec Ford, le F-150 Lightning. Ford est en train de revoir à la baisse ses prévisions de production. GM aussi retarde leur projet. Donc, c'est vraiment urgent que Tesla montre la voie dans ce domaine-là, dans ce segment-là, parce que c'est vraiment un segment qui est très important pour l'Amérique du Nord.
Oui, et l'autre inconnu, c'est reste à voir à quel point le Cybertruck pourra combler le segment compte tenu de sa singularité. C'est-à-dire qu'il y a plein Absolument. De gens qui peuvent avoir besoin d'un véhicule qui a ces caractéristiques-là, mais qui ne peuvent toujours pas digérer le look du véhicule. Hein? Il est très, mais très polarisant.
Absolument. Et juste pour finir, il y a aussi cet inconnu, parce que là, on voit des sondages qui sortent et par rapport aux véhicules électriques. Et un des freins aux véhicules électriques en Amérique, enfin aux États-Unis, c'est la capacité de remorquage et l'autonomie en remorquage. Donc, effectivement, c'est aussi quelque chose qu'il va falloir tenir compte quand on parle des projections sur ce type de véhicule et du remplacement des véhicules à essence pour cette catégorie.
Tout à fait. Laurent Gigon, comme d'habitude, ce fut un plaisir de discuter avec toi. Et puis, comme on a dit précédemment, je vous incite à écouter la chronique de Laurent Gigon qui revient régulièrement là, dans Silence on roule pour en connaître plus sur tous les produits Tesla. Laurent, merci beaucoup de ta présence avec nous.
Merci Martin et à très bientôt.
Hors série.